Il est 18h à Niamey, c'est l'heure du journal du studio Kalangou, c'est dans une présentation de Michel Deji. Au sommet de ce journal, agir contre l'hépatite, dépister, traiter, c'est le thème retenu pour la célébration ce samedi 28 juillet 2018 de la Journée mondiale de la lutte contre les hépatites. À Niamey, l'événement est marqué par le lancement d'une caravane de sensibilisation et de dépistage qui fera le tour des 5 arrondissements communaux de la ville jusqu'au 2 août prochain. Les Maliens se préparent à élire leur futur président demain dimanche. Les Maliens de l'étranger voteront aussi. À Niamey, les retraits des cartes d'électeurs se font sans grande difficulté. En partie magazine de ce journal, vous suivrez l'éclairage d'un spécialiste de la santé sur les statistiques des différents groupes d'hépatite au Niger et leur mode de transmission. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de journal que nous ouvrons avec cette brève. Le canton de Dogondouchi a un nouveau chef en la personne de Amadou Sabou. Il a été élu ce matin avec 81 voix pour et 78 pour son challenger Yakoub Ousmane Gao, ancien gouverneur de la région de Diffa et actuellement député national. 28 candidats étaient en lice. Le nouveau chef de canton de l'Arewa est âgé de 46 ans. Dans le cadre de la célébration ce jour de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites, une caravane de sensibilisation et de dépistage gratuit de la maladie a été lancée à travers la ville de Niamey. Selon le ministre de la Santé publique, le Niger dispose d'un plan stratégique de lutte contre cette maladie, mais la question de sa prise en charge reste toujours un grand souci pour les malades à faible revenu, d'où la nécessité de se faire dépister tôt pour faciliter le traitement. Docteur Ilia Souidi Maïnassara, ministre de la Santé publique au micro du studio Kalangou.
C'est en fait dans le cadre de la lutte contre les hépatites qui sont devenues aujourd'hui un véritable problème de santé publique, surtout ici au Niger. Le nombre quand même des cas évolue chaque année.
Monsieur le ministre, quelle est la situation actuelle de la prise en charge des hépatites sur l'ensemble du territoire national?
On est en train de lancer les bases de la prise en charge. La vaccination déjà a commencé gratuitement pour les enfants au niveau des centres de santé, mais pour les adultes, ça n'a pas commencé. Les adultes peuvent se procurer les vaccins au niveau des pharmacies. Et les médicaments coûtent cher. Et donc, on cherche avec l'appui des partenaires comment rendre les médicaments accessibles et vraiment faire un mouvement d'ensemble. Et en marge de ça, la première dame a organisé un dépistage gratuit à grande échelle pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale.
L'Agence nationale pour la société de l'information, ANSI, a organisé ce samedi à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger une journée porte ouverte sur le thème « Le commerce et les transactions électroniques ». L'objectif principal de cette journée est de rendre le numérique plus présent dans les activités socio-économiques des citoyens sur l'ensemble du pays, comme nous l'explique le directeur général de l'ANSI, Seydou Gemba, au micro du studio Kalangou.
Quelles que soient les activités que nous faisons, de l'argent transite d'une façon ou d'une autre. Donc on s'est dit que vu l'étendue de notre territoire, il fallait qu'on se retrouve ensemble pour parler du commerce et des transactions électroniques. C'était ça le but, donc faire en sorte que l'on vulgarise au maximum ce genre de transactions, qu'on puisse payer de plus en plus sans argent cash, mais en sécurisant les transactions, en faisant en sorte que les transactions coûtent moins cher, et en faisant en sorte que le maximum de personnes qui a des choses à vendre au Niger puissent trouver la plateforme pour pouvoir le faire de façon moins cher, vulgarisé et parti. Vous voyez l'engouement, c'est une des rares journées portes ouvertes où les gens restent aussi tard, où les débats sont aussi engagés. Et puis surtout, on a eu la chance d'avoir sur le plateau le ministre délégué aux finances qui est là, le DG d'Ecobank, donc, et des représentants d'institutions très fortes qui sont très présents dans ce secteur. Donc je pense que on va continuer donc maintenant ce débat. Chacun d'entre nous va devenir ambassadeur de ce qu'il a entendu ici et vraiment les perspectives sont très très intéressantes.
Les correcteurs du baccalauréat 2017 ne voient toujours pas clair par rapport au paiement des reliquats des frais de correction des épreuves de cet examen. Le paiement de ces frais, qui avait débuté à la veille de l'examen du baccalauréat 2018, n'est toujours pas achevé. Il est même interrompu. Khalilou Kalassi, l'un des délégués des correcteurs du bac 2017, au micro de Assoumane China.
C'est vraiment le statu quo. On n'a pas eu d'informations crédibles allant dans ce sens-là. Hier, on avait rencontré le ministre. Il était ressorti que la somme allouée à l'organisation du bac, à l'enveloppe bac 2007 et 2018, a été prise en charge à 100% par l'État. C'est ce qui sous-entend qu'il y a non seulement les frais de séjour, mais également les reliquats. Nous avons aussi décidé de venir rencontrer le directeur des examens du bac. Et le directeur nous a fait clairement comprendre que eux-mêmes, le budget qu'ils avaient élaboré n'a pas été pris en compte par l'État. Ils avaient établi un budget de 1,8 milliard, mais le même budget que l'État a tout donné, le même budget que l'État a reconnu, c'est-à-dire 1,98 milliard. Donc, d'après le directeur, techniquement, on ne peut pas permettre à ça que le bac soit organisé. Ce que les camarades, les uns et les autres doivent comprendre, c'est que cette situation qu'on réserve à l'enseignant, c'est une situation d'injustice. Ce n'est pas normal. À ce que des gens qui font un travail, qui ont attendu pendant une année, et que lorsqu'on dit qu'il y a l'argent est là, que cette année-là soit réservée seulement à 10% de ce nombre de collecteurs. C'est des collecteurs qui sont 2000 et quelques. Et sur les 2000 et quelques, on n'a pas 500 qui ont perçu cet argent-là. C'est au bout de toutes ces injustices-là que nous sommes en train de nous réorganiser afin que nous puissions nous faire entendre plus.
Les membres de la secte Boko Haram ont changé de stratégie ces derniers temps avec l'enlèvement des jeunes actifs des villages. C'est ainsi que dans la nuit du mardi à mercredi dernier, 4 jeunes ont été enlevés dans la commune de Chetimari, région de Diffa, mais 3 ont été libérés jeudi. Abou Kara Issa, président du cadre de concertation de la jeunesse Diffa, au micro de la Wambuka.
La jeunesse au niveau de la région de Diffa s'est engagée depuis le déclenchement de cette guerre pour sensibiliser nos jeunes de ne pas adhérer dans ce groupe extrémiste. Et la communauté entière, parce qu'on a constaté qu'ils n'ont pas beaucoup d'armes quand ils viennent dans des villages, c'est avec parfois des bâtons, parfois c'est un seul fusil parmi le groupe. Donc il faut que la communauté riposte, que la population se soulève contre ces genres de groupes. On est conscient qu'ils n'ont pas beaucoup d'armes comme avant. Donc on ne peut pas venir faire le combat face aux forces de défense et de sécurité. Le village de Gargada qu'on a enlevé, c'est un membre actif du bureau de conseil communal de la jeunesse de Chetimari. 4 ont été enlevés, mais grâce aux efforts que les jeunes font, ils ont été libérés. Ils n'ont pas demandé de rançon. Nous, on ne va pas cesser parce qu'ils ont juste fait ça là. Donc on va continuer à faire nos combats pour contrer l'extrémisme violent dans la région de Diffa.
Le premier tour de l'élection présidentielle malienne aura lieu demain, dimanche 29 juillet. Notre reporter était hier au consulat du Mali au Niger où les ressortissants de ce pays continuent de retirer leur carte d'électeur. Voici quelques réactions d'électeurs maliens rencontrés sur place.
Le retrait se fait facilement, il suffit seulement de donner la carte NINA et automatiquement on vous indique là où vous devrez prendre ça parce que c'est par ordre alphabétique. Et en une minute, on m'a remis ma carte. Je vais voter dans le bureau numéro 12. Tous les bureaux seront concentrés au lycée Corombé.
Ah, moi, ma carte est dans ma poche. Nous, on parle aux gens de venir prendre aujourd'hui et demain pour retirer leur carte. C'est au consulat du Mali. Moi, je vais voter le bureau 5 au centre, au lycée Corombé.
Oui, je suis là pour récupérer ma carte, donc c'est un bon exemple. Donc aujourd'hui nous sommes presque à la fin de la campagne, donc nous souhaitons à ce que tous les retardataires viennent récupérer leur carte, puisque la CENI a pris un peu de retard dans le retrait des cartes, parce que la commission n'a pas été vite installée, mais néanmoins quand même ça se déroule très bien, pas de problème. Donc on attend seulement le jour J, le dimanche. Il y a des gens, quand ils viennent ici, il va falloir quand même les montrer les équipes qui s'occupent de l'identification de l'électeur.
L'opération de distribution de ces cartes d'électeurs aux ressortissants maliens installés au Niger, démarrée le 28 juin dernier, tire à sa fin à la veille du scrutin présidentiel de demain. C'est un taux de 46% de cartes qui ont été retirées au consulat, selon le représentant de la CENI malienne au micro de Habib Gaba.
La distribution a commencé depuis le 28 et aujourd'hui nous sommes presque à la fin. Mais pour des nécessités de service que les gens n'ont pas pu retirer, la distribution continue au niveau du consulat. Le taux de récupération se situe à 46% sur l'ensemble du territoire parce que le vote se situe dans toutes les régions du Niger sauf Agadez et Diffa. Dans les camps de réfugiés, c'est comme d'habitude, c'est comme le système de 2013. Il y aura des équipes sur le terrain qui vont et qui vont avec les cartes. Et ils auront leurs cartes le jour même des élections. Les cartes non retirées seront dans les bureaux de vote.
À Zander, la campagne agricole 2018 a démarré au mois de mai. Comme l'année précédente, 3357 villages agricoles ont réalisé les semis, soit 99,37%. La campagne agricole 2018 s'annonce prometteuse dans la région, selon le ministre délégué à l'élevage, Mohamed Boucha, en mission la semaine passée. On l'écoute au micro de notre correspondant Ali Keita depuis Zander.
À cette date, sur les 3378 villages agricoles de la région des Zender, 3357 ont réalisé les semis, soit 99,37% contre 100% à la même période l'année passée. Au plan phytosanitaire, les principaux ennemis rencontrés sont les vers de collet, les cicadelles. Au total, 9750 hectares ont été infestés par ces différents ravageurs contre 1885 en 2017 à la même date. Les traitements actuellement en cours ont porté sur 1062 hectares, soit un taux de réalisation de 10,9%. La situation alimentaire est actuellement caractérisée par la disponibilité acceptable des denrées. Le niveau actuel des prix est en baisse par rapport à la même période de l'année passée pour toutes les denrées à l'exception du nourrit.
De nouvelles dispositions de l'ordonnance numéro 2017-03 du 30 juin portant loi minière relative aux exploitations minières artisanales et semi-mécanisées ont été adoptées par le gouvernement. Il s'agit maintenant de les vulgariser, d'où cette mission à Agadez jeudi dernier des responsables du secteur des mines du Niger. Abdulrazak Abdulmoumouni, membre de la mission au micro de Anissé Karim.
Cette activité rentre dans la ligne droite d'une vulgarisation d'une nouvelle loi promulguée en juin 2017 qui réorganise la filière de la mine artisanale. L'objectif de cette loi, c'est d'arriver à terme à une bonne structuration de ce sous-secteur-là qui est, comme vous le savez, source de beaucoup de nuits, de santé, de sécurité et de protection de l'environnement. C'est-à-dire il faut faire sortir les artisans de modes d'exploitation sauvage et traditionnel vers des modes de production beaucoup plus organisés. Parce que quand vous partez sur un site d'orpaillage aujourd'hui, vous n'avez aucune impression que de l'or sort de ce secteur. On ne voit que la misère. Les gens sales avec des activités faites n'importe comment, avec des gourous tapis dans l'ombre qui tirent les marrons du feu, qui se font de l'argent, alors que les gens qui travaillent sur le terrain, ils n'ont que la souffrance en fait. Et même la maladie, parce que les risques de contamination par le cyanure, les risques d'accident. C'est d'amener ces orpailleurs-là d'abord à s'organiser en coopérative ou bien pour ceux qui en ont les moyens de créer leur propre entreprise.
Parti Magazine à présent, célébration ce jour 28 juillet 2018 de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites. Selon Dr Anki Yaye, infectiologue à l'hôpital national de Niamey, cette journée concerne les hépatites virales. Il en existe 4, les hépatites A, B, C et D. Les explications sont données donc par Dr Anki Yaye, infectiologue à l'hôpital national de Niamey, au micro de Diallo Mariam Kanda.
On a autour de 8 à 18% des donneurs de sang qui ont l'hépatite B, alors que pour l'hépatite C, c'est entre 1 et 3%. Pour les personnes vivant avec le VIH, environ 12 à 15% de ces groupes-là ont l'hépatite B. Le personnel de santé, ça tourne autour de 15,3%. Pour les femmes enceintes, on a environ 15,18% et un peu ceux qui ont des problèmes de reins, ceux qui ont fait l'hémodialyse, on tourne autour de 12%.
Alors docteur, est-ce que ces chiffres représentent beaucoup?
Énormément. Ça fait que le Niger est classé parmi les pays où on a une très forte prévalence de l'hépatite B dans le monde.
Quels sont les signes cliniques de cette maladie?
C'est ça même qui fait le gros problème de cette maladie, parce que quelqu'un peut rester toute sa vie sans aucun signe. Ou bien, disons, au moment où la maladie s'installe, il n'y a aucun signe qui attire l'attention des gens. Jusqu'au stade terminal, en ce moment, on voit les signes que les gens pensent que c'est ça l'hépatite B, ce qu'on appelle classiquement Jaunix. Mais sachez que c'est des gens qui sont fatigués, qui ont la fièvre, qui peuvent avoir des douleurs abdominales au niveau du plan gauche. Mais c'est que c'est des signes qu'on peut voir dans beaucoup de maladies. Ce qui fait qu'au départ, on ne pense pas trop vite à l'hépatite B jusqu'à un certain stade où la maladie devient plus grave. En ce moment qu'on a les signes que tout le monde connaît, les signes des cancers du foie qui constituent essentiellement du jaunisse, un gros ventre et les personnes qui maigrissent et voilà.
Comment on contracte cette maladie, les modes de transmission de l'hépatite B?
On a 3 modes de transmission. Donc les relations relation sexuelle entre une personne infectée et une autre qui n'est pas infectée constitue la voie la plus importante de transmission de l'hépatite B. Après vient la transmission mère-enfant. Et après, c'est à travers donc les objets tranchants ou piquants. Les gens vont parler de sueur, de salive et autres. Sachez que il n'y a pas tellement de transmission là-bas. C'est négligeable.
La prise en charge de cette maladie.
La prise en charge commence d'abord par le dépistage. C'est essentiellement un test qu'on fait, qu'on dit l'antigène HBH positif. Quand c'est positif, ça veut dire que la personne a l'hépatite B.
Fin de ce journal. Au revoir.